À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine. Alain Krivine, vous intitulez avec une certaine ironie le livre qui retrace votre parcours « Ça passera avec l'âge », un titre qui en dit long sur le regard qu'ont porté sur vous vos proches et vos contemporains, mais aussi sur votre propre regard sur vous-même. Un titre comme un pied de nez, puisque visiblement rien ne vous est passé avec l'âge. Toujours actif au nouveau parti anticapitaliste, vous conservez un idéal que vous qualifiez de romantique et guévariste. Vous gardez votre capacité de révolte, le militantisme, l'enthousiasme, l'optimisme béat, comme vous l'écrivez, et la conviction qu'il faut inventer des slogans, descendre dans la rue, participer au fauchage des champs d'OGM, épauler les grandes grèves, vous soutenir les sans-papiers, organiser des meetings, voire des campagnes électorales, même si vous avez parfois récolté moins de 1% des suffrages. Et en véritable trotskiste, bien que vous n'aimiez pas le terme, vous n'avez renié ni le coup de poing, ni les actions clandestines, ni l'entrisme de votre organisation politique. La Ligue communiste révolutionnaire. Vous avez adhéré au PCI, fondé la Jeunesse communiste révolutionnaire, animé le mouvement de mai 68, été candidat à 2 élections présidentielles, été porte-parole de la LCR, participé au bureau du secrétariat unifié de la 4e internationale, et vous avez eu, entre 1999 et 2002, un mandat au Parlement européen. Vous êtes une des figures familières de la scène politique française, un regard sur les changements de la société inventés par les baby-boomers, mais toujours vous avez appartenu à des familles, nous en évoquerons 5, la cellule familiale et celle du Parti communiste, celle de l'anticolonialisme, celle de mai 68, celle complexe des trotskistes et celle des politiques. Aujourd'hui, premier volet, la cellule familiale et celle du parti. Alors Alain Krivine, vous naissez en 41, vos parents sont nés en France de parents eux-mêmes émigrés d'Ukraine qui ont fui les pogroms, vous vivez dans un appartement du 9e arrondissement qui est aussi le cabinet dentaire où travaille votre père. Quelle était l'ambiance à la maison? Je crois que vous étiez 5 garçons.
Ben, on était, oui, 5 garçons. J'ai un jumeau qui est un faux jumeau, donc malheureusement il ne peut pas me remplacer partout. Et effectivement, on habitait dans un appartement qui servait en même temps de salon dentaire. Donc c'est une vie un peu particulière parce qu'il y a à la fois la vie professionnelle et la vie privée. Donc disons, quand j'étais môme, il fallait être dans une ou deux pièces, ne pas traverser le salon, quand on sonnait, ne pas aller ouvrir. Donc c'est une atmosphère un peu particulière, c'est-à-dire 20aine de clients par jour. Le bruit des instruments qui étaient lavés régulièrement dans la salle de bain. Et puis, quand les clients partaient, mais c'était le soir, là, on retrouvait un peu une vie de famille. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier d'avoir un appartement mixte comme ça.
Alors, vous avez, donc, on l'a dit, des grands-parents émigrés d'Ukraine. Vous êtes donc un enfant aussi qui a été un enfant caché à partir de 1941. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez vécu cette guerre, même si vous étiez petit ? Peut-être trop petit pour vous en souvenir bien, mais nous dire en tout cas quelle était cette atmosphère, quelles étaient les références familiales et comment on vit avec cet héritage de la Shoah.
Ben oui, non, on vit plus avec l'héritage, parce que c'est vrai que dans mon esprit, je confonds, j'étais tout petit, hein, je suis né en 41, donc vraiment, on confond ce que j'ai vraiment vu et ce qui me reste et puis ce qu'on m'a raconté. Et je suis incapable de faire la différence entre les deux. Bon, par exemple, j'ai toujours dans la tête la guerre elle-même, l'occupation allemande à Paris. En plus, on a quitté Paris au bout d'un certain temps, puisque juifs, on était pourchassés. Donc mes parents et avec 2 frères, on nous a cachés dans une ferme dans l'Aisne, près de la Fère. Mais ça, c'était les dernières années de la guerre. Mais alors, dans ma tête, moi, j'ai toujours le pas de 2 soldats nazis qui descendent la rue Tédebout. C'est une rue en pente. Mais très franchement, je ne sais pas si c'est vrai ou on me l'a raconté. Bon, de même, on m'a toujours raconté, mais franchement, je ne m'en souviens plus, que dans le berceau avec mon jumeau, quand les flics allemands sont arrivés pour chercher mon père, qui n'était pas là, et il paraît que tous les deux, on a été caressés, qu'ils nous ont dit qu'on était des beaux bébés. Bon, évidemment, ça a fait le tour de la famille. Venant des nazis, c'était pas très flatteur. Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Quand j'étais près de l'affaire, j'ai l'impression... qu'un avion américain a été descendu et qu'il y avait un cadavre avec une main coupée pas loin de la ferme où on était. Mais là encore, je suis incapable de savoir si c'est parce qu'on me l'a raconté ou pas. Donc voilà, les choses se mélangent complètement. J'avais 1 an, 2 ans, 3 ans. Faut être très prudent là-dessus. Non, donc voilà, la famille s'est divisée. Une partie des frères de la tribu a été envoyée dans le sud de la France, la zone libre à Toulouse et puis dans d'autres coins, sous des faux noms, pour aller à l'école. Et puis moi qui étais tout petit, j'ai pas besoin de faux noms, et donc on nous a cachés dans une ferme, dans un tout petit village qui s'appelle Danizy.
Quelles étaient les références dans lesquelles vous avez été élevé? Parce qu'on imagine toujours, quand on est une famille dont une partie est issue donc de l'Ukraine, là en l'occurrence, qu'on a voilà, une double culture, un double héritage culturel, et puis peut-être une éducation religieuse de la part des grands-parents, laïque de la part des parents. Comment, dans votre enfance comme ça, se distribuent un peu les références culturelles?
Il y a plein de références qui sont mélangées. Hein. L'Ukraine, pas tellement. C'est un peu plus tard, on m'a dit, une partie hein, de la famille, parce que l'autre partie, c'était des juifs français ou roumains, mais venaient d'Ukraine, etc., avec l'idée qu'il y a encore, il paraît qu'il y en a encore d'ailleurs d'écrivines en Ukraine et en Russie, un écrivain bon, qui a dû émigrer en Israël. Donc, mais je veux dire, cette partie n'a pas joué tellement. Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents russes. Ici, dernier élément de mémoire, j'ai un grand-père qui est mort à table en tombant sur la table, en bouffant, et j'ai encore cette image, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Mais je veux dire, ça n'a pas joué tellement. Ce qui a plus joué, mais ça je crois que c'est dans toutes les familles juives, disons, c'est la référence permanente, alors là, y compris quand j'étais en âge de comprendre, au camp de concentration, bon, à la politique de Hitler et des nazis, avec bien sûr, comme tout le monde, une série de gens de ma famille, soit qui sont morts dans les camps de concentration, j'ai un oncle qui est mort dans un camp, ou juste en sortant d'un camp de concentration, qui était diplomate, j'en ai un autre de Toulouse qui a été fusillé, Lotman, Albert Lotman, je crois même qu'il a une rue maintenant à Toulouse. Bon, mais je veux dire, et puis des gens de ma famille qui ont été déportés, notamment quelqu'un de ma famille qui a réussi à s'en sortir et qui venait très souvent manger à la maison, qui est morte maintenant, et qui avait sur son bras tatoué le numéro, puisque les déportés avaient un numéro qu'on leur avait mis sur le bras. Et je sais, quand j'étais môme, ça me fascinait toujours de voir ce bras avec le numéro sur le bras, parce qu'on m'avait raconté ce que ça voulait dire. Bon, donc je veux dire, mais comme beaucoup d'autres, on a vraiment été élevé. Bon, mes parents, on y reviendra après, ils faisaient pas de politique, ils étaient pas militants, même s'ils avaient des idées. Mais l'idée de se battre contre l'antisémitisme, l'antifascisme, la haine des nazis, ça a été très fort. Donc ça, c'est la deuxième source, disons, d'éducation que j'ai reçue. La troisième, qui est plus liée à mes frères, qui étaient plus vieux, qui eux, tout jeunes, ont commencé à militer dans différentes organisations et ramener des brochures à la maison. Et notamment, parmi les brochures qui ramenait, il y avait les brochures des FTP, des anciens résistants. Donc, de nouveau, on retrouvait l'affaire de la résistance à travers les petits bouquins, les brochures qu'amenaient mes frères plus âgés. Et bon, voilà, je veux dire, ces trois aspects vont se combiner en permanence dans cette maison rue Taitbout.
Justement, c'est étonnant, puisque vous dites effectivement que vos parents n'étaient pas particulièrement militants, ni l'un ni l'autre, et vos frères très vite se lance dans un militantisme très, très précoce, très intense. D'où venait quel était le modèle? D'où venait cet élan?
Ben, je crois que d'abord, eux, ils ont été élevés un peu avec les mêmes sources, hein, donc ça, mais à une autre époque, si on veut. Donc ça a marqué. Mon père était de gauche, il était médecin dentiste, il était de gauche. À mon avis, il votait ou PS ou PC, mais j'entends toujours son argument. Je vote PC parce que il y a aucune chance qu'ils aillent au pouvoir, donc il n'y a pas de problème, on peut voter pour eux. Bon, et ma mère était plutôt de gauche. Comme dans les familles bourgeoises, souvent, elle travaillait pas, elle élevait ses mômes, donc elle a jamais travaillé. Et mes frères, donc, très tôt, oui, effectivement, ont plongé dans le militantisme par des contacts au lycée, etc. Ils vont se retrouver très vite, pour la plupart aux jeunesses socialistes. Les jeunesses socialistes de l'époque étaient très, très à gauche. Certains diront trotskisantes, bon, avec un de leurs leaders qui s'appelait, bon, c'est-à-dire à rien aux générations actuelles, Marceau Pivert. Donc, les jeunesses socialistes étaient en partie pivertistes. Et le nom du journal des jeunesses socialistes s'appelait le Drapeau Rouge. Donc, ça donne un peu une idée de ce que c'était. Et je sais que mes frères, tant qu'ils étaient aux jeunesses socialistes, après, ils vont partir au PC, etc. Mais ils vendaient le Drapeau Rouge. Bon, donc, je suis né aussi un peu avec ça.
Et donc justement, c'est comme ça que vous entrez au Vaillant et Vaillante, donc l'organisation du Parti communiste réservée aux enfants. Donc là commence, j'imagine, un nouvel élément de votre éducation en tant qu'enfant. Donc cette arrivée chez les Vaillants et les Vaillantes, vous vous souvenez un peu de l'atmosphère qu'il y avait dans cette organisation ?
Oui, alors là c'est intéressant parce que je crois que, bon, mon cas personnel n'est pas passionnant, mais il est révélateur de comment une partie en France des gens ont adhéré au PC. C'est-à-dire soit on est ouvrier, on adhère, on veut se défendre, etc. Soit il y a le problème familial qui joue. C'est-à-dire, moi, je suis né là-dedans. Je suis né dans le militantisme. Mes frères rentraient des réunions, rentraient des manifs, des fois la gueule en sang. Moi, je suis complètement né là-dedans. Donc, c'était évident que j'allais les suivre. Je n'avais pas d'autre perception. À table, ils discutaient politique. Ma mère faisait la bouffe, mon père parlait pas, écoutait de la musique. Donc les frères causaient. Et ils causaient que politique, ils racontaient les manifs, les réunions de cellules, etc. Donc c'était absolument naturel. Et donc naturellement, comme une partie de ceux qui ont rejoint le PC, je répète, par tradition familiale, je suis rentré au Vaillant. C'était évident. Alors à l'époque, les Vaillants, effectivement, c'était un peu les scouts du PC. Et dans le 9e arrondissement, maintenant c'est fini, il y avait un groupe efficace, enfin de Vaillants, dirigé par les moniteurs, les monos, qui étaient tous, on n'appelait pas ça les jeunesses communistes, c'était l'ancêtre des jeunesses communistes, s'appelait l'UJRF, l'Union de la Jeunesse Républicaine de France. Donc c'était bien encadré et on avait le droit, on avait un rendez-vous tous les dimanches, place Bréda, aujourd'hui elle s'appelle Gustave Toudouze, dans le 9e, et on avait les sorties le dimanche, les colonies de vacances, où je partais en colo avec les Vaillants, comme par hasard c'était des villages tenus par le PC en Haute-Vienne, qui étaient, bon, tout était pris par le PC, mais c'était la force du PC, on y reviendra peut-être plus tard, et on allait dans un endroit, d'ailleurs c'est très marrant, un village qui s'appelait Buffcocu, donc c'est un nom qu'on retient, c'était près d'Oradour, près d'Oradour-sur-Vert. Et je veux dire, bon, les Vaillants, moi, c'était le premier apprentissage de trucs collectifs. Mais les Vaillants, à l'époque, on était mômes, hein, on avait 12-13 ans. Je sais que quand on partait dans les sorties du dimanche, on gueulait des mots d'ordre et des slogans dans le métro. Donc on avait des manifs de mômes. Aujourd'hui, ça me semble un peu invraisemblable, mais passons. Mais c'était un peu le PC de l'époque. Et à 12-13 ans, moi, je me vois gueuler dans le métro, libérer Henri Martin, qui était un jeune qui va devenir communiste, qui était soldat en Indochine et bref, qui avait refusé de servir, qui vit toujours d'ailleurs, qui est un peu âgé maintenant, mais qui était un héros du PC. Et alors on gueulait libérer Henri Martin et puis une femme aussi, Raymond Dien. Et quand j'étais môme, c'était mes premiers slogans dans le métro de Paris à 13 ou 14 ans avec mon foulard bleu et rouge, des Vaillants, ma chemise bleue et blooms, on partait comme ça. Et bon, mais c'était déjà un esprit collectif, ça c'était une première forme, je dirais pas de militantisme, mais d'apprentissage au militantisme.
Et c'était une sorte de famille aussi ?
Ben, les Vaillants, c'était une espèce de famille, parce que très vite, entre les mômes, avec les monos, les moniteurs et les monitrices, ça faisait... Puis après, on se retrouvait, parce que ensuite, les Vaillants, dès qu'on était un peu plus vieux, vers 16-17 ans, on adhérait à l'organisation de jeunesse, donc l'UJRF, puisque la JC est venue un peu plus tard, en 56. L'UJRF, et j'avais un cercle, on appelait ça un cercle de l'Union des Jeunesses Républicaines de France. Les garçons et les filles étaient séparés à l'époque, hein, ça prouve l'esprit d'avant-garde du PC de l'époque par rapport aux femmes, puisque les femmes étaient dans l'Union des Jeunes Filles de France, séparées. Mais donc, on allait aux réunions, moi j'allais aux réunions de l'UJRF du 9e arrondissement, et alors là, c'était... Mais là, c'est beaucoup plus lié à ce qu'était le PC à l'époque. On était complètement pris, quoi. Aussi bien à l'UJRF, puis très vite au PC. Je veux dire, c'est une... Comment dirais-je ? C'est un peu une deuxième famille, mais c'est aussi la force du PC. Hein. Moi, je dis souvent, le PC encadre les gens du berceau au cimetière. À l'époque, hein, c'est fini maintenant, mais... encadré du berceau au cimetière, à travers l'organisation des enfants, les Vaillants, l'UJRF pour les jeunes, le PC, les jeunesses communistes pour les bombes, les plus âgés, et puis après son réseau fantastique qui allait depuis sa fédération sportive, la FSGT, où tout était organisé, le tourisme, la musique, le sport, enfin bon, il y avait un contrôle absolu, je répète, du berceau au cimetière. Donc, J'étais pas un ouvrier, mais je comprends que pour un ouvrier en plus, c'est un apport supplémentaire. Ça le sort de sa condition d'ouvrier, absolument. Et moi, je regrette pas, même s'ils m'ont viré après, mais j'ai été formé absolument par eux. Mais c'était une implantation populaire qui, malheureusement, alors je dis pas pour le PC, mais la nécessité d'une implantation populaire n'existe plus. Dans le 9e arrondissement, on avait notre local, on avait un endroit où on organisait ce qu'on appelait les goguettes, c'est-à-dire, mais c'était très régulier, hein. C'est-à-dire en fait des pots, on invitait les gens à boire, on buvait la goguette, on avait des réunions, on avait un studio de cinéma, le studio 43, où on allait voir des films soviétiques, bien sûr, qui étaient à Place Cadet, mais ceci dit, on était complètement pris, que ça soit le dimanche, le soir, les goguettes, le cinéma, ceux qui voulaient faire du sport faisaient du sport, et puis l'été on partait en colonie de vacances dans une municipalité communiste. Donc complètement, là après on est pris dedans, hein, complètement, et avec plaisir. Alors après, bon, il y a eu la cellule du PC et tout, mais qui avait aussi un côté familial. Moi je me rappelle, j'étais dans une famille, une cellule. Je dis famille, c'est marrant d'ailleurs de me gourer, une cellule qui n'était pas ouvrière, qui était la cellule du 9e arrondissement, où il y avait pas mal d'Israélites dedans, de Juifs d'origine, la plupart n'étaient pas croyants bien sûr, et notamment on avait des gardiens, parce que dans le 9e arrondissement il y a le grand temple des Juifs de Paris, rue de la Victoire, et puis il y a un temple qui est Ashkenaz, et puis il y a un temple séfarade qui est pas loin. Et moi j'avais dans ma cellule les gardiens, les concierges, des deux temples, qui des fois s'engueulaient entre Ashkenaz et Séfarad, et je les entendais en réunion de cellules. Non, mais c'est uniquement pour montrer le côté, je dirais pas familial, mais pas uniquement politique, comme certains croient. Alors ils s'engueulaient en disant que pour les fêtes de Yom Kippour, où théoriquement les Juifs n'avaient pas bouffé, il y avait des résidus de bananes et de peau d'orange qui bouffaient en douce. Les autres disaient non, c'est dans ton temple, non, c'est dans le mien. Enfin bon, ils s'engueulaient. Mais je veux dire, bon, des histoires comme ça, où le PC arrivait à structurer les gens, et politiquement, humainement, et de façon conviviale. Et ça, c'était sa force.
Alors, vous aviez en parallèle une autre formation. Vous commenciez une formation universitaire, une formation d'histoire, entre autres, donc avec Jacques Droz. Est-ce que ça vous a aussi apporté d'autres références, un autre horizon, ces études à l'université, ou est-ce que voilà, l'empreinte du Parti communiste était la plus forte ?
Non, mais c'est les deux, c'est-à-dire, bon, moi j'allais fidèlement aux cours, à l'époque c'était un peu, il y avait des travaux pratiques, mais c'était quand même les cours ex cathedra, ce qui a été remis en cause, dans les grands amphis avec des profs très connus. Bon, moi j'y allais régulièrement, j'étais un étudiant discipliné à la Sorbonne, pour faire une licence d'histoire. Bon, ça m'intéressait, j'ai fait comme tout le monde mes deux diplômes, un petit et un grand. Ça m'intéressait, mais en même temps je militais, je pouvais pas séparer les deux, parce que je suis devenu rapidement un des secrétaires des étudiants communistes de la Sorbonne, qui était un gros truc, parce que je crois qu'à un moment on a été plusieurs centaines de membres des étudiants communistes à la Sorbonne, on a dû atteindre les 400 ou 500. Bon, donc j'étais avec d'autres à la tête de cette structure, donc je mélangeais un peu, j'allais aux cours, puis dès que je sortais j'allais aux réunions de l'Union des étudiants communistes, comme en plus on avait créé une opposition aux dirigeants staliniens, j'avais mes réunions de l'opposition, donc j'avais du pain sur la planche, hein. Donc les deux étaient un peu mélangés.
Oui, ces années à la Sorbonne sont aussi vos années à l'UEC, donc à l'Union des étudiants communistes, que vous dirigiez à la Sorbonne.
À la Sorbonne, mais comme opposition. On avait fait une opposition de gauche, guévariste, comme on dit, et effectivement, on était en plein dedans, on était archi-majoritaire à la Sorbonne, jusqu'au moment où il y a eu une crise historique de l'Union des étudiants communistes, parce qu'il y a dans d'autres villes de France aussi, il y avait des opposants, et finalement l'Union des étudiants communistes est tombée dans les mains des oppositionnels. Là, il y avait deux groupes, hein, des oppositionnels pro-italiens qui se réclamaient du PC italien, on dirait aujourd'hui un peu réformiste, un peu droitier, et puis il y avait des maoïstes, et puis il y avait nous, les guévaristes, qui ensuite vont devenir trotskistes. Bon bref, et on s'est retrouvés, moi je me suis retrouvé membre de la direction nationale, mais minoritaire dans cette union des étudiants communistes, jusqu'au moment où ça a été l'explosion, c'est-à-dire le Parti communiste nous a virés, et on s'est tous fait exclure de l'union des étudiants communistes.
Oui, c'était le début, effectivement, vous évoquez cette question de l'antistalinisme, cette question de la dissidence au sein de l'UEC. Vous étiez effectivement en train de changer, en train de protester, en train de vous rebeller contre ce stalinisme qui finalement vous envahissait aussi.
Ben oui, alors, mais là encore à l'époque, on ne condamnait pas le stalinisme en soi, parce que ça demandait une compréhension globale qu'on n'avait pas.
Que vous n'aviez pas encore à l'époque.
Non, qu'on n'avait pas encore. On prenait sur certains points qui nous révoltaient, et puis après, il y avait une globalité qui était donnée. Moi, je sais que les points où j'ai commencé à pu être dans la ligne, parce qu'au début, j'ai été stalinien.
Comme tout le monde.
Oui, non, mais même, en passant, quand j'étais aux jeunesses communistes, là, je me suis retrouvé secrétaire des lycéens de Paris, et j'ai exclu des trotskistes. Pour trotskisme, où les bureaucrates, j'oublie, j'ai pas la peine de donner leur nom maintenant, où les bureaucrates venaient me voir en disant, celui-là, tu le vires, son frère est trotskiste. Bon, puis il s'est avéré qu'une fois, ils avaient raison, le gars était trotskiste, mais il avait pas de frère, enfin, etc. Et moi, j'ai viré des gens, hein, des jeunesses. J'étais le militant de choc. Hein. Donc, pour moi, au début, j'allais apporter des cadeaux à Maurice Thorez pour son anniversaire, parce que la rue Taitbout, c'est juste près de l'ancien immeuble du comité central du PC Carrefour-Châteaudun. En 1956, quand l'extrême droite, au moment de la Hongrie, a brûlé, j'y étais aussi. En 1956, j'étais tout petit, hein, j'avais 15 ans, mais j'étais un peu embêté parce que on brûlait le siège de mon parti. Donc j'étais là, je veux dire, j'étais dans la ligne, je montais le service d'ordre au local du PC, puisqu'il y avait un service d'ordre qui montait la garde régulièrement pour protéger les locaux, nuit et jour, tout ça. Plus. Et finalement, moi, ce qui va me faire changer, ça va être deux événements. Ça va être la Hongrie, 56, l'intervention des troupes soviétiques. Je commence à voir que ça va pas. Et puis, en 57, je suis envoyé à Moscou au Festival Mondial de la Jeunesse, qui existe toujours d'ailleurs, où on envoyait les meilleurs, les plus beaux. Bon, moi, j'étais envoyé comme un des meilleurs vendeurs de l'hebdomadaire des jeunesses communistes, qui à l'époque s'appelait l'Avant-Garde. Bon, et j'étais envoyé à Moscou, et c'est là où la rupture, les bases de la rupture, disons, vont commencer, mais c'est sur le conflit algérien, parce que là-bas, en arrivant à Moscou, j'ai fait connaissance, discuté avec des jeunes algériens et algériennes du FLN, qui étaient là clandestinement, mais reconnus, mais clandestins quand même, c'était en pleine guerre d'Algérie. Tout naïf, j'ai dit, ben chouette, on va organiser une réunion avec vous et la direction des jeunesses communistes qui étaient présentes. Je me suis fait engueuler d'avoir pris cette initiative, parce qu'on ne discute pas avec eux. Finalement, ils ont été obligés de me foutre dans la délégation. Il y avait toute la direction des JC qui était là. Ils se sont engueulés pendant 2 heures. En gros, pour ceux qui s'en souviennent pas, il y avait eu le vote des pouvoirs spéciaux à Guimolet permettant d'envoyer le contingent. Et le PC avait voté pour, en unité avec le PS. Donc les Algériens nous rentraient dedans, disant au PC, vous avez voté les pouvoirs spéciaux, c'est scandaleux. Les communistes répondaient, vous faites des attentats. On n'arrive pas à expliquer les attentats terroristes aux yeux de la population. Bref, ils se sont engueulés comme des trucs. À la fin, ils nous ont remis le FLN des tas de cadeaux. Et le lendemain, on me les a piqués. La direction du parti, les JC, me les a piqués en disant, faut pas ramener ça en France, on va être interdit, ça vient du FLN. Et bon, moi, encore naïf, je leur ai filé tous mes cadeaux en disant, bon, dans le train. Et en échange, on m'a filé des colis énormes à ramener pour la fête de l'UMA, qui, en fait, permettaient au parti de se faire du pognon parce que les soviétiques nous faisaient trimballer des bibelots, des machins, pas des trucs très chers, bon, bref. Et en rentrant à Paris, cette histoire d'Algérie m'avait complètement ébranlé, moi j'étais un militant et tout, et c'est là où j'ai pris contact en me disant au moins au minimum je vais faire de l'aide au FLN pour les aider.
Alors ça, on en parlera effectivement dans l'émission de demain, mais si on revient avant de terminer sur ce Festival Mondial de la Jeunesse, donc qui regroupait 10 000 jeunes, vous avez ressenti quand vous étiez à Moscou aussi la propagande mise en place par le Parti communiste de l'URSS pour montrer un pays en pleine expansion, un pays riche, un pays, le pays de l'avenir radieux.
Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire, quand je suis parti, j'avais des idées, quand je suis revenu, j'avais plus exactement les mêmes. Mais quand je suis parti en bon stalinien. À tel point que j'étais aussi stupide qu'en arrivant à la frontière soviétique, comme les autres. Je dis pas que j'ai embrassé, les autres le faisaient, une partie des autres. Mais les gens se précipitaient sur les soldats de l'armée rouge, garde frontière, pour piquer leur étoile rouge. C'était la patrie du socialisme, c'était les héros du socialisme. On les tripotait, on les aimait vraiment. Il y avait une atmosphère de dingue. Et après, au début, je suis tombé dans le panneau. Pour aller de la frontière jusqu'à Moscou, c'est des heures et des heures en train. Un train qui va très lentement, les rails sont plus larges, etc. Et à chaque gare, Il y avait des centaines de gens, mais le train s'arrêtait pas. Il y avait des fois il s'arrêtait, mais en gros il s'arrêtait pas. Des centaines de gens. Bon, après j'ai su amener par le parti de Fort, qui était sur les quais. Vive la France, Yves Montand. Vive la France, Yves Montand. Et les deux premiers mots que j'ai appris, Mir, Idrouchba, paix et amitié. Bon voilà, c'est les deux seuls que j'ai appris à l'époque. Et après je me suis dit, mais bon Dieu, ils ont amené de force des centaines de gens pour pouvoir passer un train en 3 secondes et agiter des drapeaux et gueuler Yves Montand. Bon, ça m'a un peu. Et avant d'arriver à Moscou, on nous a dit, on va être en retard la cérémonie d'ouverture sur le grand stade, mais grâce au grand leader qui dirigeait le pays à ce moment-là, le train va accélérer. Enfin, des conneries comme ça. Et ça, ça commençait à mettre la puce à l'oreille. Et puis enfin, là-bas, à Moscou, avant l'épisode algérien, effectivement, j'ai remarqué que les gens étaient mal sapés. Mais surtout, on nous filait à bouffer du caviar tous les matins. Alors d'abord, le caviar et le café au lait, ça va pas forcément ensemble, mais en outre, je veux dire, bouffer du caviar tous les matins, alors il y en a qui c'est tombaient louche. Dans le jeu, qui disaient, mais s'ils bouffent tous les Russes du caviar tous les matins, c'est un pays riche. Bon, en fait, les gens bouffaient plus de caviar depuis des années, et ils étaient pas prêts d'en bouffer après, parce que bloum, tout allait pour le festival de la jeunesse.
Donc Alain Krivine, vous revenez de ce voyage à Moscou, et vous sentez qu'il faut peut-être vous trouver une autre structure d'accueil, ou en tout cas changer quelque chose.
Ben oui, j'entre de Moscou. Je pars immédiatement comme moniteur cette fois-ci dans ma colonie de vacances à Buf-Cocu. Et là, le dirigeant du PC du coin, un député, me dit « Écoute, t'as été à Moscou, il y a très peu qui vit. Tu vas quitter ce colo pendant une semaine, tu vas faire des meetings. La Fédé t'emmène en camion, tu dors à la Fédé, tu fais des meetings dans toute la Creuse. » Alors j'ai fait des meetings, j'ai préparé mon discours. Dans le discours, je disais que les gens étaient pauvres, mal habillés. Il me dit, le député, « Non, faut pas dire des choses comme ça. Enfin, écoute, dans le Limousin, ça va pas la tête, ils s'en foutent de comment ils sont habillés, je te réécris le discours. » Et là, ça a été aussi, pour moi, j'étais vexé. J'ai dit, mais il a jamais foutu les pieds à Moscou, il me réécrit mon discours. Donc c'est la première fois où j'étais vexé. Et puis après, en rentrant de la colo, j'ai toujours l'Algérie qui me taraudait. Et là, je suis tombé, mais c'est un autre débat, parce qu'en fait, j'ai parlé de mes frères, mais c'est pas négligeable. Parce que l'un d'entre eux avait jamais été stalinien, mon jumeau, mon faux jumeau d'ailleurs, à tout point de vue, et il était trotskiste, mais clandestin.
Ah oui, vous le saviez pas. Donc vous
non, mais non seulement je ne savais pas, mais il me faisait une opposition dans le dos. Quand j'étais dirigeant des jeunesses communistes staliniennes, lui me faisait une opposition trotskiste dans le dos. Il a entendu que j'avais des problèmes sur l'Algérie. Et un jour, il m'a dit, écoute Alain, on ne discute pas du parti ici, mais si tu veux aider le FLN, moi j'ai un moyen, je vais te présenter quelqu'un. J'étais malade, j'avais une fois, pas grave. Je te présente quelqu'un, il va venir te voir à ton paddock et discute avec lui. Et la première question, c'est, je veux bien, mais je savais pas que mon frère était trotskiste, mais en bon stalinien, je disais, je veux bien, une condition, c'est qu'il soit pas trotskiste. Et mon frère a dit, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, c'est pas le problème, sûrement pas, il est là pour aider le FLN. Et c'est comme ça que j'ai eu le contact avec quelqu'un qui était dans les réseaux de soutien au FLN, qui est venu me voir, qui m'a dit, écoute, si tu veux nous aider, voilà, puis après, c'est comme ça que c'est parti, mais là, de façon organisée.
Merci Alain Krivine. À voix nue, Perrine Kervan s'entretient avec Alain Krivine. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Yves Lehors. Chargé de réalisation, Dominique Costa. Vous pouvez comme toujours réécouter ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, deuxième volet de la série, Une génération contre la colonisation.